monde au féminin. Le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous présenter le monde au féminin. Et nous avons comme invité Berthe Odile Pohan qui est psychopédagogue. Il y a eu récemment les états généraux de la jeunesse à Abidjan, Côte d'Ivoire. Et Madame Pohan, vous avez donc participé à un panel sur les risques sexuels encourus par les jeunes. Bonjour Madame, comment allez-vous ?
Je vais très bien Nathalie, merci. Oui, effectivement, nous avons eu les états généraux de la jeunesse et au panel 4, nous étions 6 panélistes à débattre des jeunes et de la sexualité à risque.
Alors, qu'est-ce qui est ressorti de ces discussions en particulier sur les risques encourus par les jeunes ?
On sait que les jeunes sont face aujourd'hui à une sexualité à risque qui comporte les grossesses non désirées, les MST, les infections sexuellement transmissibles. Donc, ils sont face à beaucoup d'éléments parce qu'on pense plus que c'est l'ignorance. Ils rentrent dans une sexualité sans avoir une éducation sexuelle de base. Alors que s'ils sont l'avenir de demain, il faut qu'on ait une jeunesse saine dans sa pratique sexuelle pour éviter toutes ces maladies.
On parle beaucoup de grossesses de jeunes filles qui sont à l'école. Est-ce que donc il y a eu des discussions faites avec les enseignants et en tout cas une manière de trouver des moyens pour éviter cela ?
Ici, on a plus de 4000 grossesses en milieu scolaire. Mais surtout là, on était face à des jeunes. Et on a voulu montrer aux jeunes gens que la sexualité n'est pas sans risque. On est dans un siècle où il y a beaucoup de méthodes contraceptives. Mais on sent que cela n'est pas utilisé. Et on a eu l'avis d'un expert même qui nous a dit aujourd'hui, ce qui est récurrent, c'est la pilule du lendemain. Mais ce que les jeunes là ne comprennent pas, c'est qu'on peut vouloir éviter une grossesse, mais en même temps avoir le sida et toute autre pandémie parce qu'on ne s'est pas préservé. On ne se préserve pas seulement pour ne pas tomber enceinte, mais on se préserve aussi contre beaucoup d'autres maladies transmissibles sexuellement. Donc c'était important de révéler cela et surtout de montrer qu'un jeune qui fait un enfant, alors que lui-même on n'a pas fini son éducation, c'est comme si on disait un enfant fait un enfant. Et les conséquences sont multiples sur la vie de la personne, la mortalité, parce que quand on est jeune, et les médecins qui étaient là l'ont prouvé qu'il y a beaucoup de problèmes à l'accouchement, le taux de mortalité de la mère et de l'enfant, et au niveau même psychologique, le traumatisme. Quand vous n'êtes pas prêt à accueillir une grossesse chez la jeune fille, elle veut l'avorter, elle sent que c'est perdu, et vous avez le rejet de la famille. Donc, on a parlé aux jeunes gens, aux jeunes élèves qui étaient là.
Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, justement, en particulier ces jeunes ? Que retenez-vous de leurs questions, de leurs réflexions sur ce sujet ?
Les jeunes ont compris que, comme nous avions d'abord dit, le sujet de la sexualité est un sujet tabou. Parents, enfants, dans la communication, cela est pratiquement inexistant. Même dans le couple. Donc, l'éducation sexuelle doit être de base. Et donc, les jeunes ont proposé qu'on pouvait, si les parents étaient gênés de parler de sexualité avec leurs enfants, on pouvait utiliser ces jeunes gens pour aller dans les domiciles ou aller ailleurs pour parler des jeunes comme ça se fait déjà. Ils ont des forums, tout ça, peut-être pas à domicile. Mais ils ont compris que la communication sur la sexualité responsable est un élément important. Ils ont demandé également qu'on puisse mettre à disposition des méthodes contraceptives gratuites, ce qu'on fait, mais que cela soit vraiment bien expliqué. Parce que c'est une période où la maturité sexuelle arrive. Donc, ils ont plus axé le fait sur la communication, la formation et l'éducation sexuelle à apporter aux jeunes. On a l'impression qu'on pense qu'on connaît la sexualité, comme les parents pensent qu'éduquer, c'est facile. Mais non, il faut pouvoir expliquer.
Et vous, qu'est-ce que vous préconisez par exemple pour les jeunes filles ? Parce que, comme nous le savons très bien, ce sont les filles, hein, les femmes qui tombent enceintes. Donc, par rapport à cela, qu'est-ce que vous préconisez pour que les filles prennent vraiment soin d'elles et évitent de tomber enceinte. À part les contraceptifs, bien entendu, vous l'avez dit, des filles très jeunes, qui logiquement n'auraient peut-être pas à avoir des rapports sexuels aussi.
Nous préconisons l'éducation sexuelle qui est connaître son corps. Les élèves qui ont accès à l'éducation sexuelle, à la connaissance de leur corps, savent mieux gérer si elles veulent rentrer dans la sexualité. Parce que c'est une période de maturité sexuelle. On va dire l'abstinence, c'est un conseil. Mais maintenant, au-delà de l'abstinence, il faut montrer les méthodes contraceptives normales. Comment calculer son cycle, comment savoir ses périodes, comment faire cela. Et puis, comprendre également que la sexualité ne se fait pas n'importe comment et à n'importe quel moment. Donc, en discutant, en montrant aux filles, vous savez, il y a des filles qui disent « moi, je suis blessée » parce qu'elles ont vu leur menstrues. Donc, ça dit parler de ce qui se passe dans l'organisme de la femme et montrer qu'à partir de tel ou tel aspect, on peut tomber enceinte. Moi, je crois en la vertu de l'éducation sexuelle à travers la connaissance de son corps et des comportements sexuels à avoir pour que nous puissions prendre les précautions nécessaires. Donc, moi, je veux que la communication sur la sexualité ne soit plus un tabou. On doit pouvoir parler de la sexualité à une jeune fille très vite pour qu'elle comprenne tous les risques. Je vous donne un exemple rapidement. Il y a une jeune fille que je reçois qui est enceinte à 16 ans. Elle dit que le copain lui a dit « il faut d'abord faire l'amour pendant 5 mois avant de tomber enceinte ». Donc, c'est l'ignorance. Si cette fille avait des connaissances.
Mais alors justement, là aussi, par rapport à cet exemple que vous venez de citer, il y a bien évidemment la responsabilité du garçon également.
Oui, c'est cela. Vous avez dit vous-même que les conséquences sont plus importantes sur la vie de la fille. C'est elle qui va tomber enceinte, c'est elle qui va voir sa scolarité perturbée, c'est elle qui va allaiter un enfant, c'est elle qui va subir. Donc généralement, le jeune homme, quand il vient vers vous, il va vous dire ce qu'il a envie de vous dire pour que vous puissiez céder. Voilà, le jeune homme, il est dans un besoin sexuel. Donc lui, il va arriver à vous convaincre d'accepter.
Encore une fois, sur ce problème-là, la fille, forcément, il faut qu'elle soit éduquée, il n'y a pas de doute. Mais le garçon dans tout ça, vous venez juste de dire s'il a ses désirs sexuels, etc., etc. Comment faut-il faire pour sensibiliser le garçon, pour que le garçon lui-même soit responsable par rapport à ses actes avec une fille?
Nous montrons la responsabilité du garçon dans l'échec scolaire, peut-être d'une fille ou bien dans la... Et c'est pour ça, quand vous interrogez les filles, généralement, ils vous disent « c'est le garçon qui n'a pas voulu se protéger ». Donc, nous montrons aux garçons qu'il faille se protéger, penser au devenir de la fille, parce que très vite, ces jeunes gens-là sont face à une situation et ils refusent ces grossesses. Donc, nous leur disons également que les méthodes contraceptives, le préservatif a été vite développé chez les hommes. Il faut comprendre que la jeune fille avec qui on va, on doit préserver son intégrité pour ne pas qu'elle tombe enceinte. Donc, apprendre aux garçons à maîtriser son corps, certes, mais à se préserver. Si les préservatifs féminins ne sont pas trop développés, quand les gens font les campagnes, c'est plus axé sur les préservatifs masculins. Donc, les hommes n'ont pas d'excuses à faire l'amour aujourd'hui en Côte d'Ivoire ou bien partout sans se préserver parce que les premiers préservatifs, c'était plus masculin. Et on voit qu'on fait la grossesse à deux. Et nous expliquons, parce que nous avons fait le panel même en 2015 avec Madame le ministre Alena, nous avions parlé de grossesse en milieu scolaire. Nous avons dit qu'il fallait parler plus aux hommes parce que c'est beaucoup d'élèves qui enseignent des élèves.
Quant aux MST et autres infections, vous allez forcément préconiser le préservatif, mais est-ce qu'il n'y a pas des comportements, d'autres types de comportements à avoir pour les éviter?
Si vous ne vous préservez pas, vous n'avez que l'abstinence, c'est ça. Quand vous voyez les deux modes, on va dire préservez-vous ou abstinez-vous.
Est-ce que vous l'avez quand même conseillé à un moment donné l'abstinence? Quand on parle de très jeunes âges, est-ce qu'on ne peut pas attendre un petit peu avant d'avoir des relations sexuelles?
Bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit 8 ans, 9 ans quand je parlais. J'ai dit quand ils sont très jeunes, on parle de connaissance du corps, on peut leur parler, mais on prend l'abstinence. Mais à partir de la puberté et de l'adolescence jusqu'à l'âge, vous êtes obligé de montrer des méthodes contraceptives. C'est à partir de la puberté où elles peuvent tomber enceinte, où les caractères sexuels secondaires sont mis en place de manière normale. Et maintenant, on leur dit attention.
On a tendance à culpabiliser les parents, mais la société elle-même.
Société, famille, école, partout. La société elle-même. Mais parce qu'un enfant, reproduit l'environnement social dans lequel il vit. La dépravation sexuelle, la prostitution, ça se voit à tous les coins de rue. Et quand un enfant grandit, aujourd'hui, on en a parlé même des tontines sexuelles qui aujourd'hui en train de prendre la place où des élèves commencent à faire des tontines et puis se retrouvent dans les choses. Donc, la société elle-même...
Qu'est-ce que c'est ce que vous venez de citer?
Une tontine sexuelle.
Qu'est-ce que c'est?
Tontine sexuelle. Ben, des gens qui se mettent ensemble, des élèves maintenant, qui font des cotisations, et puis le week-end, on offre un plaisir sexuel dans un hôtel à un couple qu'on tire au sort. On en a parlé. Ça, c'est la société elle-même, parce qu'on parle de tontines d'argent, mais maintenant on arrive dans les tontines. Est-ce que la brigade des mœurs joue son rôle en montrant? Donc, nous disons dans le domaine de la psychologie que l'environnement a un impact sur l'éducation de l'enfant. Et ce soit la famille peut dire ne fait pas, mais si l'enfant sort à l'extérieur, par exemple, les tontines sexuelles, ce n'est pas dans les familles, c'est extra-familial.
Madame Poin, ça vient d'où ça? Qu'est-ce que c'est qui fait que nos jeunes sont perdus comme ça à faire des choses pareilles?
On va me dire non, c'est le besoin, c'est pas le besoin d'argent. Parce que quand des gens font une tontine pour aller prendre quelqu'un qu'on ne connaît pas, on tire au sort deux noms. Et ces gens-là se retrouvent dans un hôtel, ce n'est pas pour de l'argent qu'elles le font. Donc je trouve que le sexe est devenu comme une sorte de libération mentale ou quoi. Est-ce que c'est parce qu'on fait ça qu'on est émancipé? Est-ce que c'est qu'on recherche? Donc c'est maintenant quand on a fini qu'on a dit qu'on va voir pour faire des enquêtes pour essayer de comprendre ce qu'on recherche. Parce que ce n'est même pas du plaisir, prendre un inconnu, aller dans un hôtel. Donc vous comprenez que c'est peut-être la société. Mais c'est vrai, on me dira, est-ce que c'est lié au fait que des gens sortent de guerre? Est-ce qu'il y a des comportements qui sortent quand après vous avez eu des crises? Mais ça, des sociologues devront travailler dessus pour sortir ce comportement sexuel qu'on essaie de comprendre et qui est difficilement compréhensible parce que pour des jeunes gens qui cotisent de l'argent, pas pour acheter des vêtements, mais pour s'offrir des passes à l'hôtel, sans savoir que la multiplicité de partenaires est un risque sexuel, sans savoir également que des comportements inappropriés, de vulgarité sexuelle, ça également aura des conséquences sur notre manière de nous comporter.
Attendez,
sexuelle.
Ils ont quel âge ces jeunes qui font ça, environ?
Je pense que c'est moins de 18 ans. Ce sont des élèves des collèges. Quand les jeunes n'ont pas de réponse aux interrogations sur certains sujets,
c'est une réaction
avec les adultes, leurs parents et autres. Et c'est ça. Quand la famille ou la société ne met pas en place les mécanismes d'information et de formation sur certains sujets, le jeune homme a Internet où ils ont des groupes pour eux-mêmes expérimenter ce qu'ils pensent bon pour leur groupe. Parce que c'est la maturité sexuelle, c'est l'âge des expériences, des conduites à risque. Les jeunes, c'est ça. Ils expérimentent, ils pensent qu'ils sont grands. Les jeunes s'auto-éduquent concernant l'éducation sexuelle. Parce qu'une jeune fille qui ne sait pas que la multiplicité des partenaires sexuels a un comportement à risque, c'est une affaire de communication concernant un sujet tabou dans la société. Donc je voudrais dire que il faut que nous puissions parler de sexualité. On n'a pas dit initiation sexuelle, on dit éducation sexuelle, pour que les jeunes puissent nous poser les questions, prendre en compte tout ce qu'ils doivent savoir pour entrer dans cette sexualité naissante dans laquelle ils tombent sans outils de connaissance réelle.
On a bien compris, vous parlez de la santé sexuelle. Berthe Odile Poin, un grand merci pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes psychopédagogue à Abidjan, en Côte d'Ivoire. À très bientôt, au revoir.
Merci Nathalie.
Parole de femme.
Au Bénin, les femmes victimes de fistules obstétricales font toujours face à l'abandon et au rejet social. Elles sont condamnées à vivre à l'écart, a constaté la correspondante de VOA Afrique, Ginette Fleuradandé. Voici son reportage.
Les fistules obstétricales au Bénin restent encore un sujet difficile à aborder. Nawarat a 30 ans et est mère de 4 enfants. Victime de fistules obstétricales, elle a été bannie de sa communauté.
Mais tout a commencé après des complications liées à ma grossesse. Pendant 3 jours, j'ai saigné sans pouvoir me rendre à l'hôpital faute de moyens. Suite à cela, j'ai commencé par ressentir des douleurs au niveau de la colonne et par perdre le contrôle total de mon urine. C'était vraiment pénible, très difficile à vivre.
Au centre de santé de Saint-Méré, à environ 500 km de Cotonou, on y rencontre beaucoup de fistuleuses. C'est le cas de Hadidjat, 47 ans, guérie depuis plus de 5 ans, mais qui refuse de réintégrer la communauté qu'il a rejetée.
Pendant mes 12 ans de maladie, j'ai terriblement maigri. Je n'arrivais pas à manger régulièrement. À peine je mangeais que les selles risquaient de s'échapper. J'étais en permanence en couche. Je ne pouvais me présenter dans les grandes assemblées de peur de sentir mauvais et de révéler au grand jour ma maladie. C'est arrivé au point où j'ai envisagé de me suicider.
Il n'y a pas de chiffres fiables sur le nombre de femmes béninoises atteintes de fistules obstétricales. Gisèle Badito est médecin. Elle estime que le coût exorbitant des interventions chirurgicales pousse beaucoup de femmes à ne pas se faire connaître, une réalité qui en rajoute à la stigmatisation.
Ce n'est pas une maladie qui est déclarée. La prise en charge de cette fissure obstétricale, c'est très difficile et ce n'est pas une opération qui permet nécessairement d'arriver à vous. Il faut peut-être 3 à 4 opérations. Avec le coût de cet acte-là, les femmes sont réticentes.
Tongueta, ville située au nord du Bénin, abrite un campement tenu par les religieux et qui accueille les femmes victimes de la fistule obstétricale. Sœur Thérèse Kelendibo explique ici les conditions ayant poussé à la création du campement.
Le malade n'arrive pas à se déplacer pour venir au centre, surtout si ce sont des interventions chirurgicales. Ça nécessite que ce malade soit auprès de l'hôpital. Donc ceux qui viennent, n'ayant pas grand moyen, préfèrent rester sous les manguiers.
Au Bénin, même si des facteurs cliniques favorisent les fistules obstétricales, il y a des causes qui, selon Dr Mbonou, méritent sensibilisation.
Il faut que le bassin de la femme soit mature. Mais si on envoie une petite fille de 15 ans et en mariage précoce, au cours de l'accouchement, il y aura des problèmes. En dehors de ça, il y a les pratiques traditionnelles. Dans les zones reculées, rares sont les femmes qui sont autorisées, même si tu as les propres moyens, de te rendre à l'hôpital sans l'autorisation de ton mari.
L'urgence aujourd'hui reste la sensibilisation mais aussi la promptitude du gouvernement à prendre à bras le corps ce drame social qui peut être inscrit au rang des stigmatisations dont sont victimes les femmes. De Cotonou, Jeanette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Si jeunesse pouvait.
Ask Without Shame est une application mobile gratuite et un service SMS qui fournit une éducation sexuelle aux jeunes Ougandais. L'application offre une plateforme permettant de poser anonymement toutes les questions sans crainte ni honte et d'obtenir des informations correctes. Dilly Dico nous en dit plus.
Aujourd'hui, c'est jour de lessive pour Promise, une jeune femme ougandaise de Kampala. Pendant que son linge sèche au soleil, elle s'active sur son téléphone. Mais elle n'est ni occupée à regarder des photos sur Instagram, ni en train de se mettre au courant des derniers potins de la capitale. Ce moment de répit, elle l'utilise plutôt pour se rendre sur Ask Without Shame, une application mobile de santé sexuelle.
Vous savez, de nos jours, nous les jeunes craignons d'aller dans les centres pour jeunes adultes car il faut payer la visite. Et comment puis-je leur dire que j'ai une infection urinaire ou des pertes anormales ou que j'ai eu un rapport non protégé? Mais avec cette application et l'accès à l'internet mobile, que vous soyez dans un taxi, chez vous en train de faire la cuisine ou laver le linge, vous pouvez utiliser l'application.
Après avoir perdu ses parents et sa sœur décédée du sida, Ruth Nabembezi a décidé à 23 ans de créer Ask Without Shame, une plateforme anonyme et gratuite où les utilisateurs peuvent poser des questions sur leur santé sexuelle. Les membres de l'équipe, des experts en médecine et conseillers, envoient également des messages aux abonnés via WhatsApp et une application Android.
Les réactions à cette application sont fantastiques. Nous ne sommes qu'une petite équipe de 8 personnes, 8 infirmiers répondant à ces questions quotidiennement.
Roof a lancé cette plateforme, comprenant également un centre d'appel gratuit, en 2015. Elle se dit surprise par le nombre d'utilisateurs et leur localisation géographique.
Nous avons un total de 80 000 utilisateurs sur l'ensemble de la plateforme et plus de 8 000 téléchargements pour l'application. Nos utilisateurs sont partout dans le monde entier. Ils sont nombreux aux États-Unis et la plupart d'entre eux sont en Inde et bien sûr en Ouganda. C'est donc un problème à l'échelle mondiale, pas seulement un problème ougandais. Les concepteurs de l'application Ask Without Shame se proposent d'atteindre plus d'un million de jeunes en Afrique de l'Est. L'équipe utilise les questions posées par les utilisateurs pour organiser des formations à l'intention des responsables de la santé ainsi que des campagnes de sensibilisation dans les zones rurales.
Mais oui, et c'est la jeunesse ouverte.
Sini Samba, 26 ans, ingénieur en agroalimentaire sénégalaise, a cofondé le Lionceau, une entreprise spécialisée dans l'alimentation pour bébés. Elle propose une alternative locale qui permet d'améliorer la santé nutritionnelle des enfants tout en contribuant au soutien des producteurs et de l'économie du pays. Raïssa Girondin a recueilli les propos de Sini Samba qui s'exprime sur le bien fondé de son entreprise.
Au Sénégal, 19% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition et les parents manquent cruellement d'informations autour de la nutrition infantile. Aujourd'hui, sur le marché des purées pour bébés au Sénégal, il n'y a que des produits importés. C'est pour ça que j'ai fait le choix de rentrer au Sénégal pour créer cette entreprise.
Est-ce que vous pensez toucher un plus grand marché sur le continent hormis le Sénégal ?
Oui, complètement, parce que si on regarde, par exemple, aujourd'hui, les autres pays en Afrique de l'Ouest, ce sont les mêmes problématiques. Beaucoup de malnutrition, que des produits importés et beaucoup de pertes agricoles. Nous ambitionnons de répliquer notre modèle dans ces pays. Aujourd'hui, plus que jamais, il est vraiment important pour nous de valoriser nos ressources locales, qui sont vraiment des trésors du point de vue nutritionnel, et de les mettre au profit des enfants du continent.
Comment vous vous différenciez par rapport à la concurrence ?
Dans toutes nos recettes, on n'utilise que des matières premières locales à haute valeur nutritive, comme le fruit du baobab, le fougnon ou encore le mil. En plus de cela, on a vraiment construit cette communauté avec les mamans en essayant d'être au plus proche de la clientèle. Donc on a des parents qui nous appellent, qui nous demandent des conseils alimentaires.
Est-ce que ces mamans sont donc prêtes à payer plus cher pour soutenir votre produit ?
Au Sénégal, par exemple, les gens sont de plus en plus ouverts d'esprit. Ils commencent à prendre conscience par rapport au contenu local. Mais après, il faut avouer que le prix reste quand même un facteur déterminant dans l'acte d'achat. Mais ils font attention surtout à la qualité et à l'innovation des produits. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment à nous, transformateurs, de leur proposer des produits qui répondent vraiment à des standards internationaux.
Quel a été l'un des obstacles auxquels vous avez été confrontés ?
C'est surtout l'accessibilité aux matières premières, donc l'approvisionnement. Du côté des producteurs, il y a beaucoup de pertes agricoles. Donc, par exemple, 50% de la production de mangue est perdue au champ. Ils n'arrivent pas à les acheminer en ville et il n'y a pas beaucoup de transformateurs locaux. Si on regarde au niveau infrastructure routière, c'est très compliqué de pouvoir accéder dans certaines zones. Cela engendre donc les pertes au champ parce que les producteurs n'arrivent pas à acheminer leurs produits en ville et les transformateurs n'ont pas encore les moyens ni les capacités d'aller chercher cette matière première.
Sini Samba, fondatrice de l'entreprise Le Lionceau, basée au Sénégal. Chères auditrices, chers auditeurs, le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, juste après les nouvelles. Sur notre site internet, visitez aussi voaafrique.com/LMF pour consulter nos articles, vidéos, interviews et les autres éditions déjà parues. On reste en contact. À très bientôt.
Arrête.